Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Nous nous trouvons à présent dans l'un des lieux préférés des visiteurs du musée, le temple de Dendur dans l'aile Sackler. Les murs du temple et le portail sont ornés de reliefs qui représentent le pharaon faisant des offrandes aux dieux.
Alors, on va peut-être pas se faire toute la visite aujourd'hui, mais vous l'aurez compris, on est au cœur du Metropolitan Museum of Art de New York, parmi les touristes, dans cette grande galerie du temple de Dendur, une aile du musée connue de tous, avec son immense baie vitrée qui donne sur Central Park. Construit il y a 2000 ans sur les rives du Nil, le temple dédié à la déesse Isis a été ramené par bateau dans les années 60 et remonté ici, pierre par pierre, dans cette salle immense, tout spécialement construite pour lui. Un présent offert par le gouvernement égyptien aux États-Unis, en remerciement pour l'aide fournie dans la sauvegarde de son patrimoine. Mais autour de ce joyau de la civilisation égyptienne, il y a aussi une autre histoire de cadeau. Une histoire qui concerne la famille Sackler, notre famille de milliardaires américains, aujourd'hui accusée d'avoir provoqué la crise des opioïdes aux États-Unis. Car les Sackler, en plus d'être les redoutables commerciaux qui ont inondé le marché avec leur antidouleur hyper addictif, sont aussi des esthètes, figurez-vous. Et cette magnifique aile du Metropolitan Museum, ce sont eux qui l'ont financée. En 1974, ils ont donné 3,5 millions de dollars pour la construire. Depuis, elle porte leur nom, l'aile Sackler. Cette superbe musique accompagnait un défilé Chanel, organisé récemment au pied du temple de Dendur. L'aile Sackler est en effet devenue un lieu archi-prestigieux qui accueille dîners et événements exceptionnels. D'ailleurs, la famille de milliardaires l'a elle-même utilisée à plusieurs reprises pour ses propres soirées privées. Mortimer, l'un des frères fondateurs de Purdue Pharma, est peut-être le membre le plus extraverti de la famille et a organisé deux de ses anniversaires dans les années 80. J'ai retrouvé une photo d'une de ces fêtes, publiée dans les pages People du New York Post. On y voit une mannequin de l'époque posée à côté d'un énorme gâteau en forme de sarcophage. Enfin, un sarcophage d'un genre particulier. Je laisse Scott Clark Woolley, le pâtissier, raconter les drôles de commandes que lui passaient les Sackler. Il s'est d'abord montré réticent, et puis il a accepté que je lui passe un petit coup de fil. Il avait beaucoup de choses à raconter.
They hire the cake designer, and then they're in charge of what they want. And the cake designer will say, well, what do you want for this party? And she said, a sarcophagus. The King Tut's sarcophagus, but we want Mortimer Sackler's face on it because it's his birthday. So they basically used the entire part of the Temple of Dendur area for the party. It was, the cake was for 500 people, but it was many more than that. It was in the thousands, I would think. And they used Glorious Foods, which is the top of the line caterer in New York City, probably still is. But in the 80s, they were the ones to go to for anything that was big and elaborate. And it was very opulent, you know, I mean, just an enormous amount of money spent for this fellow's birthday, just to honor him. Because, well, I guess when you give $10 million to the Met, they're going to, you know, celebrate your birthday every year. So it was 2 years in a row, basically, I did the sarcophagus and then the Sphinx. The Sphinx was, actually, I didn't just have to do the cake, but the cake board was quite elaborate. I had to create a burial bier, which is what you would carry, like what Cleopatra is carried in on in the movie, you know, something that the men on the sides are holding poles and carry. So this Sphinx cake had three poles shoved through the burial bier, which the cake was sitting upon. And then there were six waiters that carried in the cake in celebration with sparklers and all that sort of thing. Basically, it was just very much
cet intérêt pour le monde de l'art, c'est Arthur, le patriarche, celui qui a révolutionné la publicité médicale, qui l'a insufflé en premier dans la famille. Avec les gains amassés grâce au Valium notamment, il achète tous les objets d'art qu'il trouve et devient spécialiste de l'art antique chinois. C'est même une obsession, racontent les observateurs, et comme on ne fait jamais rien à moitié chez les Sackler, Arthur finit par posséder l'une des collections privées les plus importantes du monde en la matière, qu'il stocke non pas chez lui, mais dans une aile privée du Metropolitan Museum, tout simplement. Au fil des années, sa passion contamine les autres membres de la famille et le clan commence à financer de nombreuses institutions culturelles, comme le musée Guggenheim, un peu plus haut sur la 5e avenue, le musée d'histoire naturelle de New York ou une galerie du Smithsonian à Washington. Leur largesse dépasse vite les frontières, ils soutiennent par exemple la Tate Moderne et la Royal Academy de Londres, le Louvre à Paris et le musée d'art contemporain de Bordeaux. Grâce à ces dons qui peuvent se chiffrer à plusieurs millions de dollars, les centres culturels s'agrandissent, s'embellissent, s'enrichissent d'œuvres du monde entier. Les Sackler accordent également des aides aux grandes écoles et universités, Harvard, Yale, Columbia, Cornell ou l'Institut des hautes études scientifiques en France. En réalité, dans l'œil du public, ils ne sont plus les patrons des laboratoires Purdue Pharma, mais bien l'une des familles les plus généreuses des États-Unis. Un rôle que nous détaille Benjamin Soskiss, un historien de la philanthropie, qui s'est penché sur leur cas.
The Sackler family was, I think, one of the most public philanthropic families that we really had in the United States over the last several decades. There's been a lot of major philanthropic families, but the Sacklers were distinguished for their gifts to institutions that had a certain cultural cachet, museums and hospitals especially, and for cultivating a very public presence. Almost the vast majority of Sackler gifts were named gifts, meaning that that a name attached to the institution that they donated to. If you were a citizen of a major American city and were an art patron or got sick and visited a major hospital, there's a chance that you encountered the Sackler name. Most people up until relatively recently in the United States knew of the Sacklers almost entirely through their philanthropy. They didn't have a good sense of where the money came from.
Aujourd'hui, certains accusent la famille Sackler d'avoir fait pendant toutes ces années de l'art washing, en d'autres mots d'avoir sciemment utilisé le monde de l'art et des musées pour faire oublier son laboratoire et se racheter une réputation.
The larger question of, why is it that for three decades at least, we walked by institutions with the Sackler name. I mean, while the opioid epidemic was mounting and growing, and why we didn't stop to ask ourselves, wait a second, who are these people? What's their connection to opioids? Is that an issue? It started relatively late, those types of questions. Once those questions started, things happened very fast. But I think what this does raise is, at least Americans, we rely heavily on philanthropy for a lot of public goods that in Europe, for instance, are provided by the government. And we tend, at least in the past, we've tended not to ask too many questions about the nature of that wealth. I don't know if there's an equivalent in French, but there's an American expression, you don't look a gift horse in the mouth, meaning that when someone gives you a gift, you just don't inquire too much about where it's coming from. And there's a long tradition in the United States of basically assuming that if money can do good, then we don't dig into its origins. The Sacklers seem to me to really, really challenge that theory. And I think because their fall has been so public, it's making Americans sort of reconsider the entire relationship of philanthropy, in which, you know, wealth is accumulated, we don't ask about it, and then we're grateful when it's given away.
Généreuses donations permettent à la famille Sackler d'évoluer sans trop de questions parmi la bonne société new-yorkaise, cette élite intello et financière qui règne sur la ville. Impossible désormais de faire carrière dans le monde de l'art sans avoir affaire à eux, ou de frayer dans les dîners mondains sans en entendre parler. En 2013, Raymond, l'un des trois frères Sackler, est même fait officier de l'ordre de la Légion d'honneur par François Delattre, l'ambassadeur de France à Washington. Ce dernier vante l'incroyable succès du médecin et sa francophilie, mais oublie de mentionner les morts que l'oxycontine a provoquées. Le neveu Mortimer et son épouse Jacqueline font quant à eux l'objet d'un papier incroyablement élogieux dans le magazine Vogue, qui est tombé sous le charme de leur maison de campagne, une demeure décrite sur 8 pages comme élégante mais simple, à seulement 2 heures de New York. Bref, c'est la belle vie et personne ne pense venir remettre en question ce bonheur. Personne, sauf la photographe Nan Golding. L'année dernière, l'artiste américaine, connue pour ses clichés sans détour sur les violences domestiques et le sida, choisit une fois encore la sincérité. Elle révèle dans la presse être elle-même tombée dans la dépendance aux opioïdes suite à une opération chirurgicale, de l'oxycontine d'abord pour soulager les douleurs, puis les doses qui augmentent, les médicaments qui s'accumulent et l'héroïne, enfin, dont elle fera une overdose. Sortie de cet enfer, elle décide de monter l'organisation Pain, souffrance en anglais, pour demander au musée d'arrêter d'accepter l'argent de la famille Sackler et aux propriétaires de Purdue Pharma de financer plus tôt des programmes de santé contre les addictions. En mars 2018, elle débarque dans la grande salle du temple de Dendur pour une action coup de poing. Avec d'autres militants, elle jette des dizaines de boîtes d'oxycontine dans le bassin entourant le temple millénaire.
They need to fund treatment. Thousands are dying every day. 130 people dying in this country. And they're moving their businesses to Europe. They're going to kill people there. The lies, telling everyone that this medication was not harmful. They knew the stats.
L'organisation finit par payer. En mars 2019, la National Portrait Gallery de Londres annonce qu'elle refuse la donation d'un million de livres promise par la famille Sackler. Le musée est suivi par des prises de position similaires de la part de la Tate Moderne, du musée Guggenheim à New York, du musée juif à Berlin, puis du Metropolitan Museum of Art et du Louvre à Paris, qui débaptisent même les salles financées grâce à l'argent des Sackler. Le mouvement s'accompagne depuis d'une pression médiatique et judiciaire inédite contre la famille. Mais les milliardaires, évidemment, ne se laissent pas faire. C'est ce que nous verrons dans le prochain épisode de ce podcast.
Salut, c'est Sinamir du podcast L'Affaire. En 2016, je suis monté sur un bateau de sauvetage en Méditerranée et ce que j'y ai vu n'a pas changé. En tout, depuis 10 ans, on compte même près de 30 000 morts sur cette mer. Alors dans le naufrage, notre nouvelle enquête, j'ai voulu raconter un cas concret. Comment 130 personnes sont mortes en 2021 à la frontière de l'Europe, malgré des dizaines d'appels de détresse. Qui n'a pas pu les sauver et pourquoi? Qui étaient ces disparus? Et surtout, comment on en est arrivé à ne plus parler de 130 personnes qui meurent le même jour sur un bateau au milieu de la Méditerranée? Le naufrage, c'est la nouvelle série du podcast L'Affaire de Paradiso Média. Une enquête que vous pouvez retrouver gratuitement chaque semaine à partir du 27 mars 2024 sur toutes les applications de podcast.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.